De 8h, Michel Grossiore. Bonjour Michel.
Bonjour Thomas, bonjour à tous. La coalition internationale mobilisée contre le groupe État islamique est loin, bien sûr, de revendiquer la victoire. La stratégie reste la même, des frappes aériennes, ce qui suppose du temps, de la patience, insiste le Pentagone. Officiellement, on refuse d'attribuer des progrès aux djihadistes, notamment en Syrie. Mais voilà que pas moins d'une cinquantaine d'experts du renseignement américain se rebiffent. Ils dénoncent purement et simplement, Gérardine Wessner, une opération maquillage de l'administration.
Oui, un maquillage subtil mais systématique. Les rapports qui servent de base aux décisions politiques seraient régulièrement modifiés, altérés pour coller au scénario qu'on veut vendre au public et selon lequel l'opération, qui a déjà coûté 4 milliards de dollars, porte vraiment ses fruits. C'est loin d'être le cas et c'est ce que dénoncent ces analystes de l'ombre qui travaillent au CENTCOM, le centre qui dirige les frappes de la coalition en Irak et en Syrie. La plainte qu'ils ont déposée cet été a filtré dans la presse. Ils décrivent un climat stalinien au centre d'opération où certains de leurs supérieurs boosteraient leur carrière en livrant des rapports qui plaisent aux politiques et à Barack Obama qui aurait donc eu entre les mains des analyses tronquées, nettoyées des données pessimistes. Certains bilans trop sombres ont été carrément enterrés. Le Pentagone confirme qu'une enquête est ouverte. Elle pourrait être dévastatrice au plus haut niveau du renseignement si les faits sont confirmés. Il rappelle en tout cas un précédent honteux qui avait précipité la guerre en Irak. Ces faux renseignements sur les armes de destruction massive.
Merci Gérardine Wessner. Et la France à son tour se dit inquiète face aux informations selon lesquelles la Russie procède à un renforcement de ses moyens militaires en Syrie. Avertissement hier soir de Laurent Fabius. Les États-Unis font un geste pour les réfugiés syriens, critiqués pour son manque de réactivité. Barack Obama ordonne l'accueil de 10 000 d'entre eux dans l'année qui vient. Une réunion se tient aujourd'hui à Prague pour tenter d'apaiser les tensions entre les pays européens. Ceux de l'Est ne sont pas du tout, bien sûr, vous le savez, sur la même ligne que l'Allemagne. Alors que le flot des arrivants est loin de se tarir, la Hongrie a réquisitionné des prisonniers pour achever au plus vite la construction d'une clôture de barbelés le long de sa frontière. En France, les premiers réfugiés syriens sont pris en charge en urgence, mais d'autres migrants déjà présents depuis des mois, voire plus, par exemple sur le quai d'Austerlitz à Paris, se disent délaissés, Jean-Jacques Héry, délaissés, voire lésés.
Oui, et la surprise un peu amère aussi de voir ces Syriens qu'on accueille à bras ouverts en France. Et ça, les Soudanais, les Érythréens ou encore les Guinéens qui dorment sous une tente depuis plusieurs mois ont du mal à l'accepter, comme Badour qui explique avoir fui le Darfour.
Ils s'en fichent de nous. Les Syriens, ils arrivent et on les héberge. Nous, on vit déjà ici et c'est quoi la différence? Il y a la guerre au Soudan, au Darfour. Et c'est à cause de ça qu'on est venu. Ils ne doivent pas faire de distinction entre eux et nous.
L'attente d'un logement est d'autant plus dure à vivre que les migrants sont dans la crainte de l'évacuation du camp, sur laquelle le tribunal doit se prononcer aujourd'hui. Tous seront relogés avant fin septembre, jure la mairie de Paris, mais Marc Nathen du collectif de soutien craint la suite, car l'administration fera forcément la différence entre migrants économiques et réfugiés.
Ils nous ont annoncé hébergement pour tous un mois. Au bout d'un mois, on scindera entre ceux qui seront dans le cadre d'une procédure et ceux qui ne le seront pas. Les Soudanais sont les premiers éligibles à l'accueil, ça c'est clair. Pour le reste, c'est des gens qui viennent de l'Afrique subsaharienne pour beaucoup. Guinée, Tchad, Côte d'Ivoire, et ces gens-là, l'asile, ils ne peuvent pas l'avoir.
Cela se retrouvera alors en situation d'expulsion après parfois 2 ans passés en France. L'incertitude renforce encore un peu plus la tension entre les tentes.
Merci Jean-Jacques Héry.
Europe 1, il est 8h04.
La police ne peut pas perquisitionner la nuit selon la règle générale, mais les contrôles antidopage, eux, vont être autorisés pendant le sommeil des sportifs. C'est une information Europe 1. Le gouvernement, en effet, va signer une ordonnance la semaine prochaine pour introduire ce changement majeur qui, bien sûr, va bouleverser, j'imagine, les compétitions, les grandes compétitions, Émilie Bonneau.
Et oui, les joueurs de foot, les coureurs cyclistes vont devoir se faire à l'idée que bientôt on pourra frapper à leur porte à 3h du matin. La raison est toute simple. Aujourd'hui, les tricheurs sont de plus en plus difficiles à confondre. Ils prennent un tout petit peu de PO, ça disparaît en 2-3 heures. Du coup, les contrôles sont inefficaces.
Oui, parce qu'une nuit de sommeil, il n'y a plus de traces.
Eh oui. Et oui, voilà, effectivement, si on fait le contrôle à 6h du matin, c'est terminé, on ne peut plus détecter le PO. Et ça disparaît donc en 2-3 heures. Contrôle inefficace, réveiller un sportif en pleine nuit, ça ne va pas de soi. Le gouvernement y a pensé. Il faudra que les concernés donnent
leur accord. Alors pas juste avant le contrôle, mais par exemple en début de saison. Et s'ils refusent, le risque, eh bien, c'est d'être catalogués dopés. Autre élément, dans un premier temps, eh bien, ceux qui seront concernés sont les sportifs sur lesquels pèsent déjà de forts soupçons.
Alors, et pourquoi cette décision aujourd'hui, Émilie ?
Eh bien, l'idée, c'est d'être au point pour l'Euro de foot qui commence le 10 juin prochain, avec en ligne de mire la candidature de Paris pour les JO 2024. L'Euro doit être la vitrine sur la sécurité, sur l'accueil des touristes et aussi donc sur le dopage. Clairement, le gouvernement considère ça comme un examen de passage. Pour marquer des points auprès du CIO, il faut être exemplaire, irréprochable et avec ses contrôles 24 heures sur 24, la France se met aujourd'hui en conformité avec les recommandations de l'Agence mondiale antidopage, quitte à provoquer l'hostilité d'une partie de nos sportifs.
Merci Émilie Bonneau. De nouvelles investigations sur la mort du ministre Robert Boulin qui avait été retrouvé dans 50 cm d'eau il y a 35 ans maintenant dans la forêt de Rambouillet. L'ouverture d'une information judiciaire annoncée par le parquet de Versailles évoque un possible enlèvement suivi d'un assassinat. La fille de celui qui fut en charge du travail dans le gouvernement de Raymond Barre a toujours défendu une piste politique parce que son père disposait, dit-elle, d'informations sur le financement occulte de certains partis. Écoutez, la satisfaction et l'espoir aujourd'hui de Fabienne Boulin.
C'est 36 ans de lutte et j'espère que maintenant on a un magistrat qui va reprendre l'ensemble du dossier parce que l'enquête officielle ne repose sur rien et donc il y a des témoins qui attendent d'être entendus par un juge d'instruction. Ça va enfin pouvoir se faire. On a un témoin très important qui a vu mon père à l'heure où officiellement il est censé mettre ses lettres disant qu'il se suicide à la poste. Il était dans sa voiture accompagné d'un monsieur qui conduisait et un autre qui était derrière lui. Manifestement, c'était un enlèvement. Toute la thèse officielle qui dit qu'il est mort noyé, or la noyade n'a jamais été prouvée. On dit qu'il a marché 7 mètres dans la vase. Il n'y a pas de vase à ses chaussures. Il a été retrouvé sur le ventre alors que les médecins légistes ont dit qu'il est mort sur le dos. Enfin, rien ne tient. C'est tout. C'est la raison d'État qu'il fallait qu'on ne dise pas la vérité sur l'assassinat de Robert Boulin. C'est insupportable dans un pays démocratique que l'on ose dire à la famille, aux Français, des mensonges. Ça, je n'accepte pas.
Fabienne Boulin qui poursuit donc son combat inlassable avec le secours de la justice aujourd'hui. Des propos recueillis par Jean-Sébastien Soldaini. Un sénateur devant le tribunal, l'élu socialiste des Hauts-de-Seine, Philippe Kaltenbach, a dû répondre hier de corruption passive lors de l'attribution d'un logement social dans la ville dont il était le maire, alors Clamart. Les soupçons étaient nés, Chloé Triomphe, de la diffusion d'une vidéo.
Oui, sur cette vidéo postée anonymement sur YouTube, on entend un homme raconter les déboires d'un habitant de Clamart qui cherche d'urgence un logement pour lui et sa famille. Celui qui parle est aussi celui qui filme. L'image est de mauvaise qualité, c'est une caméra cachée. Mais tendez l'oreille, on entend qu'il compte les billets jusqu'à 1000 en les remettant à Philippe Kaltenbach qui les glisse dans son portefeuille.
Tellement qu'il est dans la merde, il m'a rajouté un billet. 100, 200, 400...
Tout ce que je veux, c'est qu'il ait un bel appartement. Quoi. Je veux dire,
sur le centre-ville, il m'a mis 3 pièces, on lui propose 1.
Pour sa défense, Philippe Kaltenbach affirme que son adjoint lui remboursait un prêt personnel, tout en évoquant le cas particulier d'un clamartois à la recherche d'un logement, mais que la conversation et l'échange d'argent n'ont rien à voir. Philippe Kaltenbach parle de coups montés, de manipulation ourdie par son adversaire politique. Depuis la révélation de cette vidéo en 2012, il a renoncé à se représenter aux dernières municipales après 13 ans passés à la tête de la mairie de Clamart. Aujourd'hui, il est toujours sénateur.
Merci Chloé Triomphe.
Europe 1, il est 8h09.
On n'arrête vraiment pas le progrès. Voici la voiture électrique livrée par la Poste en pièces détachées. Cette innovation, on la doit à des entreprises de la région Aquitaine. Et cette innovation est baptisée ampoule, celle que l'on doit se faire, j'imagine, aux mains lors de l'assemblage, même si cette tâche délicate, Stéphane Place, restera dévolue à des garagistes. Hein.
Oui, mais c'est très simple, Michel. Alors, je prends un exemple. Le dernier meuble que vous avez acheté, par exemple, je parie qu'il était en kit.
Et j'en ai encore d'autres à monter.
C'est un désastre.
Et vous l'avez monté vous-même, il tient pas, mais vous l'avez monté vous-même. Eh bien, cette voiture électrique de 4 places, mise au point ici en Aquitaine, c'est le même principe. En à peine 6 mois, c'est assez extraordinaire, on a réuni les compétences d'une vingtaine d'entreprises et le projet financé par la région est devenu un prototype sur 4 roues, ampoule, vous le disiez, c'est le nom de cette voiture en kit, livrable effectivement comme un gros paquet. Gaël Lavaux est l'un des entrepreneurs impliqués dans la conception de ce véhicule.
Une caisse aujourd'hui de véhicules est composée d'environ 150 pièces. Nous allons faire l'équivalent avec 10 pièces. Ces pièces en composite permettent de diviser par deux le poids de la caisse d'un véhicule. Ces 10 pièces sont assemblables n'importe où en 2 heures. C'est-à-dire que l'ensemble des pièces pourront être envoyées par la poste chez votre concessionnaire qui, lui, assemblera votre véhicule et sera vendeur et fabricant de véhicules. Ce sera mieux fini qu'une Méhari, mais ça a la dimension exacte d'une Méhari. Donc ça n'est pas une petite voiture, c'est une citadine classique. On a fait réaliser une série de tests où on a pu constater que l'autonomie réelle du véhicule, grâce à ses légèretés, était de 120 km.
Avouez que c'est idéal pour des déplacements urbains. Bah oui, c'est assez extraordinaire. Commercialisation de la voiture électrique et connectée, made in Aquitaine, espérée. Donc Thomas, vous serez le premier acquéreur en 2016.
Mais parce qu'il n'y a plus de Méhari. Moi, j'adore les Méhari, mais on n'en trouve plus.
Ah, mais c'est mieux. Franchement, c'est mieux. Son prix donc de cette voiture, la baptisée Ampoule, ce sera en dessous de 20 000 euros. C'est ce qu'expliquent les concepteurs. Et puis, en fonction des volumes, on passera peut-être en dessous de la barre des 15 000 euros.
Dis donc, Stéphane Paz, vous prenez un peu pour Anis Mbida qui fait la chronique Made in France à nous dire c'est Made in Aquitaine, hein.
Ouais, bah,
un peu
oui,
cocardier. Hein.
Écoutez, c'est une réalité. Hein, une vingtaine d'entreprises comme ça qui se réunissent. Et vous rendez compte, en à peine 6 mois, c'est le temps qu'il faut à Michel Grossure pour monter un meuble.
Et aller en acheter un autre.
Il y a déjà 2 commandes dans le studio pour Noël 2016. On va commencer à faire des économies pour se l'offrir, cette voiture en kit qui sera dévoilée, déballée, début octobre à l'occasion du congrès mondial sur les transports intelligents à Bordeaux. Et on a une pensée particulière ce matin pour les facteurs. En basket, rien n'arrête les Bleus à l'Euro. Et oui, les facteurs qui vont livrer cette voiture en kit, Julie. En basket, rien n'arrête les Bleus à l'Euro. Ils se sont assurés la première place du groupe A avec un 5e succès, 86-61 face à Israël. Début des matchs à élimination directe, ce sera demain face à la Turquie.
Merci Michel.
Europe 1, 8h12.